Sur Radio Campus 106,6 FM, vous écoutez Lilin Info, un magazine hebdomadaire consacré à l'Université Lilin, à ses projets, à ses partenaires. Vous aimez les polars, mais je l'espère en tout cas, nous allons passer un moment aujourd'hui avec Emmanuel Cisse, donc pour son roman qui s'appelle Chaud, Beffroi. Bonjour Emmanuel Cisse.
Bonjour.
Donc un polar dur de dur.
Dur de dur, non, pas vraiment.
C'est plutôt une enquête approfondie,
oui,
par deux fins limiers. L'idée de mettre deux inspecteurs en service plutôt qu'un qui serait plutôt la vedette, c'est un choix?
Oui, des couples de détectives, il y en a quand même un certain nombre dans l'histoire du polar. Et un homme, une femme, ça me paraissait pas mal.
Donc cette psychologie joue entre les deux, le fait que ce soit un rapport homme-femme, couple de policiers, ça peut intervenir.
Oui, je pense qu'il peut y avoir toute une série de rapports. Enfin bon, en plus, c'est quand même pas le premier, donc ils évoluent au fil des romans. Mais bon, ça c'est après à chaque lecteur à se faire son idée.
Donc ils ont à résoudre une enquête, c'est-à-dire le meurtre, l'agression d'un homme assez complexe. Il a plusieurs casquettes, il s'appelle Yves Frémaux. Et on peut le retrouver à la fois dans l'histoire, dans la ville, qui est Lille, comme chef d'entreprise, comme homme politique, comme commerçant et peut-être aussi comme homme à femme.
Tout à fait.
Donc, par moment, on enquête plutôt sur une direction, on trouve une voie et après on change de cap.
Le personnage est complexe et puis l'enquête est complexe aussi, donc il y a tous ces aspects-là. C'est comme dans une vraie enquête policière, les flics doivent prendre en compte souvent une réalité complexe. Comme effectivement, ils gravitent dans beaucoup de cercles, ça peut être un petit peu chaque cercle. Dans chaque cercle peut se trouver l'assassin, donc c'est tout l'intérêt, à mon avis. Disons que c'est ce que j'ai essayé de rendre, la difficulté. De toute façon, si on trouve au bout de 30 pages, c'est un petit peu gênant.
Qu'est-ce qui perd l'enquêteur et, évidemment, le lecteur, ce sont aussi les personnages secondaires, les gens qui sont aussi très présents, même plus discrets, mais qui ont des personnalités dans cet ouvrage.
J'essaye, moi, de créer des personnages secondaires qui ont du poids, un petit peu comme les seconds rôles dans le cinéma français. Il faut que tous les personnages puissent paraître vrais, c'est mon idée. Donc effectivement, je construis toute une série de personnages à chaque fois, avec des grands rôles, des petits rôles, des moyens rôles, et puis voilà.
L'idée, c'est de faire un peu se perdre aussi le lecteur.
Oui, dans ce principe de roman qu'on appelle un peu aussi le roman par énigme, il faut que pas que le lecteur se perde, parce que s'il ne sait plus qui est qui, c'est un peu gênant. Mais disons qu'il hésite sur l'identité du coupable.
Donc cette enquête nous emmène dans Lille. Évidemment, vous êtes de la région lilloise. On peut dire que vous êtes même enseignant ici à l'université.
Oui, je suis né à Lille. J'habite Lambersart, mais et j'enseigne à Lillin. Donc, je connais quand même bien Lille. Quand même, je suis né dans le vieux Lille. Et bon, maintenant, ça fait 56 ans que j'y traîne mes guêtres.
Donc, je suppose qu'il doit s'y passer des choses un peu comme dans n'importe quelle ville de France de cette taille.
Oui, voilà, c'est lié à la taille de la ville. C'est une ville où il peut se passer effectivement beaucoup de choses. Quand même, si on prend en plus toutes les communes avoisinantes, parce que quand je dis Lille, c'est souvent un peu la métropole lilloise et c'est quand même énorme.
Mais c'est une ville qui n'est pas trop prise en lieu, en terrain pour les romans policiers.
Maintenant, ça commence à l'être.
Oui, avec une série.
J'édite chez Polar en Or et cet éditeur qui est Ravé Anceau a permis quand même à énormément de gens, d'écrivains justement du Nord, de pouvoir éditer. Donc maintenant, on n'est pas loin du 90e roman, pas loin même du numéro 100 et il y a des enquêtes un petit peu partout. Il y en a qui se passent sur le littoral, il y en a qui se passent dans la Vénois, et sur la métropole lilloise.
Donc, pour être édité par cet éditeur, il faut avoir un contexte qui correspond donc à l'entité région Nord-Pas-de-Calais.
Ah oui, c'est le cahier de charge. Si ça, bon, même s'il édite aussi des polars en région, d'autres coins, c'est quand même, bon, pour être dans Polar en Nord, il faut être dans ce qu'on appelle le Grand Nord jusqu'en Picardie quand même. Mm-hmm.
Bon, ça fait quand même de la place, et comme ça n'a pas été traité avant, il y a de la marge.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Comment on... Bon, je suppose, quand on écrit des romans de ce style, policiers, d'enquête, etc., on a forcément lu avant beaucoup de choses. Comment on se nourrit de l'autre chose, et comment on va chercher ici, dans notre région, des spécificités, des problématiques particulières et qui, justement, donnent une crédibilité au travail, à l'œuvre?
Il y a déjà tout le travail sur les lieux qui vont quand même ancrer. Moi, je rencontre souvent des gens qui me disent « Ah ben, j'ai reconnu tel endroit, je me retrouve là-dedans ». Bon, après, il y a les métiers, ce que font les gens. C'est un nord besogneux, qui n'est pas dans le mauvais sens du terme. C'est une région industrielle, c'est une région de travail. Et puis voilà, après il y a aussi toutes les... Bon, il y a un côté intemporel aussi dans le polar quand même, hein. Que ça soit un roman qui se passe à Oslo, à Stockholm ou ici, c'est quand même un meurtre et un meurtre. Mmh. Les mobiles sont quand même des fois les mêmes.
Bon, il y a quand même un contexte politique qui s'appuie sur... quelque chose qui ressemble à une réalité ou pas?
Oui, alors ce qu'il y a, c'est que, bon, à chaque fois, j'essaie de trouver un milieu, comme on dit. C'est trouvé que ça... Là, l'arrière-plan était politique. Enfin, je tiens à signaler quand même que ça reste une intrigue criminelle. Il n'empêche qu'à l'époque, comme c'était au moment des municipales à Lille, il y a beaucoup de gens qui ont voulu y voir un roman à clé.
Mais bon, c'est pas forcément le cas.
Non, c'est pas forcément le cas. Le seul personnage réel est Martine Aubry, qui est cité une fois, d'ailleurs, de façon très neutre. Bon, j'ai bien conscience que quand j'écris des polars, c'est des livres qui visent à divertir. Et bon, j'ai mes opinions de citoyen, mais je les cache absolument dans mes romans.
Est-ce que la réalité dépasse la fiction? Est-ce que parfois, quand vous écrivez des faits, j'allais dire divers, viennent corroborer des phrases, des textes, des propos?
Oui, par exemple, on est rejoint parfois par la réalité. Le roman précédent qui s'appelait « La mort du canal », vous voyez qu'il n'y a pas eu longtemps, il y a eu quand même plusieurs morts dans la Dole. Mmh. Et donc, parfois, on est rejoint par la réalité, même plusieurs années après.
Mmh. Est-ce que dans cette réalité, il y a des énigmes qui sont résolus, d'autres pas? L'histoire du canal, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait vous inspirer sur de futurs écrits?
J'en ai écrit déjà un où on avait une morte repêchée dans la Dole. Et des morts dans la Dole, on en repêche assez souvent. Donc je vais peut-être
un petit peu
changer.
Mais trois en suivant, c'est quand même...
Voilà, oui, trois en suivant. On mettrait dans un roman, on dirait, tiens, c'est pas terrible, c'est pas réaliste. Mais bon, je vais peut-être changer un peu, je veux dire. Mais c'est vrai qu'en discutant avec des collègues, plusieurs, on se sont vus rattrapés par la réalité.
Alors, vos collègues, quand vous parlez de collègues, ce sont des collègues écrivains ou des collègues universitaires, par exemple?
Il y a Sandrine Rousseau qui a écrit qui était ici à la fac, qui a écrit un polar aussi, qui va paraître aussi bientôt, qui va bientôt ressortir aux éditions La Voix du Nord, l'épluchure à la Lilloise. Mais à part elle, la plupart des gens écrivains, là, mes collègues écrivains, sont un peu de tous les métiers, tous les horizons. C'est tout l'intérêt, c'est la richesse de ces rencontres.
Est-ce qu'il y a un club?
Chez Polar Nord, il faut reconnaître que la dernière fois, au Salon du Livre d'Arras, on a pris l'apéro ensemble. Et de temps en temps, on se voit. Là, on va bientôt aller aux 50 ans de notre éditeur, Gilles Guillon, que je salue s'il écoute. Mais oui, c'est vrai qu'on forme une grande tribu, plus tous les gens d'ailleurs qui écrivent des polars et qui ne sont pas Polar en Nord et qu'on rencontre parfois, Franck Tillier, d'autres, etc.
Est-ce que ça a une force, un impact d'être... pas forcément en groupe, mais de se connaître. C'est presque un petit réseau que vous pouvez présenter dans des salons ou dans des lieux.
Disons qu'on
on
se discute ensemble, on échange un petit peu notre actualité, ce qu'on fait, où on en est, on peut se demander des renseignements, etc. Ça fait plaisir de voir ce que font les autres, on se lit mutuellement, c'est tout un intérêt.
Il y a des salons du livre policier, il y en a à Lens, je pense.
Il y en a énormément.
Ouais, il y en a dans la région. Hein.
Oui, oui, le plus grand, c'est Bondu, bien sûr, enfin sur la métropole lilloise, bien sûr, qui n'est pas un salon du polar, d'ailleurs, autrement, c'est Lens, en polar aussi. Puis il y en a maintenant vraiment beaucoup. Il y a Templemar aussi, qui est de mon collègue Jean-Marc Demey. Le salon du polar de Templemar, en septembre, est réputé.
Donc on peut dire que le livre policier, c'est quelque chose qui s'inscrit, qui défie le temps, qui n'a pas perdu de son intérêt pour les lecteurs.
Puisque
ça se transmet de génération en génération.
Toutes les études des libraires montrent que dans une librairie comme le Furet du Nord, c'est le rayon qui marche le mieux. Il y a vraiment, c'est tellement vaste, le roman policier a tellement de choses que c'est quelque chose qui est vraiment quand même, je pense maintenant, bien ancré chez les gens. Avant, il y avait la littérature blanche, la littérature propre, si je puis dire, et la littérature noire. Maintenant, c'est fini.
Qu'est-ce qui a changé depuis Agatha Christie, Hercule Poirot, etc.?
Disons que moi j'aime bien ce genre de roman et je le fais, mais c'est moins à la mode maintenant. Ceci dit, je pense qu'il y a un gros lectorat pour ce genre de roman. Ce qu'il y a, c'est qu'Agatha Christie, elle tarabiscotait tellement ses énigmes que des fois les personnages sont un peu des silhouettes. Il n'empêche que ça reste, le nombre de gens, c'est encore un des auteurs les plus lus dans le monde. Donc peut-être quand même, ça a évolué, il y a d'autres types de romans policiers, plus sociaux, d'autres genres, le thriller, des choses comme ça.
Il y a aussi une période sans Antonio qui était assez réjouissante.
Alors c'est mon collègue Maxime Gilliot qui est un des grands spécialistes de San Antonio.
Est-ce que ce style peut encore se poursuivre?
Oui, tout à fait. Il suffit de voir à les traîner au Furet ou à la FNAC, au rayon policier, il y a toujours du monde.
Du genre San Antonio, je veux dire.
Ah, même San Antonio, oui, il y a des clubs San Antonio.
Qu'est-ce qui prendrait le relais maintenant dans ces générations?
Il n'y a pas vraiment de relais. C'est vrai qu'il y a eu une mode, le thriller, c'est-à-dire où l'identité... la recherche du coupable n'est pas essentielle. On sait tout de suite qui a fait le coup. On le suit même, vous voyez. Donc ça, c'est avec des gens comme Elroy aux États-Unis. Le serial killer, c'était quelque chose qui a été beaucoup à la mode. Peut-être que ça commence un peu à lasser quand même maintenant. Mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de prégnant? Il y a beaucoup de genres qui coexistent, le roman noir, le thriller, le polar traditionnel, etc.
Est-ce que toute cette série d'ouvrages réalisés en région et autour du thème du polar en région peut se retrouver un jour, ou se retrouve peut-être déjà, soit dans des séries télévisées, soit dans des films, pourquoi pas?
Ça pourrait, oui, faudrait, je sais pas s'il y a un réalisateur prendra le risque, parce que c'est vrai que quand on situe un roman dans la région et qu'on l'envoie à des éditeurs parisiens, c'est pas nécessairement un plus. Donc, les chaînes de télé étant essentiellement parisiennes, c'est peut-être pour le moment plus difficile à imaginer, mais bon, pourquoi pas, j'aimerais bien en tout cas.
Ça pourrait être une démission de France 3 en radio, par exemple. Avant,
si c'est un message que vous envoyez, moi je veux bien l'appuyer.
On va réclamer donc en tant que spectateur, téléspectateur et contribuable aussi le travail de ce côté-là, d'une chaîne régionale qui pourrait quand même s'investir dans des... comme ça a été le cas autrefois.
Peut-être, oui. En tout cas, il y a matière, parce qu'il y a vraiment, très honnêtement, dans les... Moi, je peux parler des romans de Polar au Nord. Je ne les ai pas tous lus, loin de là. Il y en a plus de 90. On lit d'autres choses. Mais enfin, j'en ai quand même bien lu une quinzaine, voire une vingtaine. Et ça tient la route, quand même.
Est-ce qu'on peut imaginer aussi, parallèlement, des représentations théâtrales? Est-ce que les personnages sont...
Ça serait possible. Ouais. Il y aurait tout un travail de scénario, mais pour certains, je pense peut-être pas tous, il faudrait voir, mais pourraient peut-être se mettre en scène, oui, pourquoi pas.
Parce qu'il y a quand même pas mal de compagnies dans la région, certaines qui présentent, je pense ici, pas très loin, à la Grange de la Ferme du Pire, des festivals, des choses comme ça. Ça pourrait être l'occasion de présenter.
Oui, j'ai vu récemment une troupe lambert-sartoise représenter Diptynègre, l'adaptation théâtrale. Ça peut se faire, bien sûr.
Bon, il faudrait faire un salon d'échange avec les créateurs de théâtre de la région, les metteurs
en
scène.
Pourquoi pas.
Quand vous avez décidé d'écrire, quel est au départ peut-être ce qui vous a motivé, mais peut-être aussi ce qui vous a freiné? C'est-à-dire, est-ce que quand on écrit, on s'engage à publier, donc à être lu et à être éventuellement reconnu? C'est votre cas? Est-ce que ça peut être un frein aussi à la mise en écriture?
On s'engage, vous savez, c'est pas si simple. On a déjà bien de la chance quand on est édité. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont obligés de s'auto-éditer ou de passer par des comptes d'auteurs. Énormément, d'ailleurs. Il y a beaucoup plus de gens qui ont du mal à être édités que de gens édités. Non, les freins, c'est peut-être au tout premier, celui que j'avais auto-édité, là, après qui est passé en feuilleton dans La Voix du Nord. C'est peut-être, le doute sur la capacité à y arriver. Trouver un éditeur, c'est encore un autre combat. Mais peut-être pour moi, et pour beaucoup, je pense, peut-être au tout début, puis même à chaque livre, finalement, est-ce qu'on arrivera au bout? Est-ce que ça va plaire aussi, surtout? Parce que, c'est pas parce qu'il y en a un ou deux qui ont plu que le suivant plaira nécessairement. Donc il y a toujours des phases de doute. Moi, personnellement, j'en ai quand même assez souvent, des moments où je trouve que c'est pas bon. Enfin, surtout dans la première phase. Et puis, après, il y a tout le travail d'amélioration. C'est bien pour ça que la phase d'échange avec les lecteurs est intéressante. Quand quelqu'un dit « j'ai bien aimé votre livre », ça booste un peu.
Et avant la publication, est-ce qu'il y a quelqu'un qui relit, qui conseille?
Alors, chacun a sa façon de faire. Moi, je le lis moi-même 50 fois. Enfin, pas 50 fois, mais disons plusieurs fois en tant que prof de... Tant que prof de français, ça me gêne pas. J'aime bien ces phases de relecture. Après, je le fais lire à ma femme, à mon fils. Et après, il y a l'éditeur qui le donne à un comité de lecture qui est très mystérieux. Et puis après, il est accepté. Donc ça fait quand même déjà pas mal de monde qui l'a lu, quoi.
Est-ce que vous considérez qu'un livre, il s'écrit en étant concentré du début à la fin et ensuite on passe éventuellement à un autre livre, ou bien vous pouvez faire plusieurs écrits en même temps?
Ah non, moi, non. Absolument pas. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup, d'ailleurs, parce que surtout en polar... où on doit être quand même bien dans son histoire, surtout même le genre que j'écris et que je pratique avec des romans où il faut classique par énigme, ça suppose qu'on soit vraiment dans son histoire, les fausses pistes, etc. Enfin, moi, quand je suis dans un. Et là, vous me parlez de Chaud Beffroi. C'est parce qu'il est réédité, mais il a été édité il y a quand même 4-5 ans. C'est les éditions La Voix du Nord qui le réédite et nous donne un joli coup de pub, mais... Je suis dans celui qui va sortir bientôt, quoi.
Donc on peut-être trahir un peu s'il y aura un
thème particulier. Oui, c'est un roman. Depuis, mes deux personnages ont évolué puisqu'il y a eu Julia morte deux fois qui est sorti en 2010, toujours dans la région lilloise. Et là, le suivant se passera dans les milieux prépa au lycée Féderbe.
D'accord. Est-ce que ça suppose d'enquêter, ou bien on peut quand même se donner un peu de marge d'improvisation?
Ça suppose quand même une enquête sérieuse, parce que il faut quand même se documenter, on peut plus écrire n'importe quoi. Là-dessus, ça a quand même aussi évolué depuis Agatha Christie. Si on faisait de grossières erreurs par rapport à la réalité policière, ça serait gênant quand même. Maintenant, ça reste quand même un ouvrage de fiction, c'est pas un article de journaliste.
Est-ce que vous prévenez les gens, par exemple là, sur un lycée ou une prépa? Est-ce que vous avez une approche, on va dire, des personnes qui travaillent ou qui vivent dans ce lieu?
J'y suis passé, surtout j'étais prêt en classe prépa, donc quand même, et puis... Non, je n'ai pas spécialement. J'ai revisité le lycée Féderbe grâce à un collègue d'angliciste de la fac qui est CPE, qui est vacataire, mais en fait CPE à Féderbe. Mais Voilà quoi.
Donc Emmanuel VI, c'est votre vrai nom ?
Oui.
Vous n'avez pas changé ?
Non, j'ai pas eu envie.
Non. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut se poser à un moment donné, d'écrire sous un autre nom, même écrire sous le premier et aussi sous le deuxième ?
Oui, ça peut arriver pour certaines raisons, que certains le fassent. À Pollard-en-Or, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, ça peut, il y en a quelques-uns qui ont un pseudo. Après, c'est des raisons qui leur sont personnelles.
Est-ce qu'on peut aussi changer d'identité formelle pour changer de style ?
Oui, c'est possible. Regardez Romain Gary qui avait édité Émile Ajar et qui avait écrit complètement dans un autre style que ce qu'il écrivait sous le nom de Romain Gary. Donc je suppose que oui, mais moi, comme pour le moment je suis sur mes polars, je reste un peu dans la même veine. Si je faisais un autre type de roman, sans doute que je... Mais bon, pour le moment, c'est pas l'ordre du jour.
Pour vous, écrire une histoire, un roman, c'est une liberté ou une forme de contrainte ?
C'est une liberté. Il n'y a personne qui m'a mis une baïonnette dans le dos. Donc si je le fais, c'est que ça me plaît. Maintenant, dire qu'on rit tous les jours quand on est en train d'élaborer l'histoire ou d'écrire, c'est dur. Il y a des moments on a envie de tout laisser envoyer balader. Mais bon, quand même, globalement, on est content de le faire. Et puis de voir le résultat, d'arriver à un produit, puis d'y dialoguer après avec les gens.
Est-ce que vous écrivez plus facilement dans les moments où vous êtes en vacances ou au contraire sous la pression du travail quotidienne à l'université ?
Non, quand même plus en vacances parce que là j'ai quand même pas mal de choses à l'université, des responsabilités administratives en plus de mes TD, donc c'est quand même prenant. On bosse à Lille quand même, donc j'arrive un peu à le faire pendant, mais c'est quand même les périodes de vacances sont bienvenues.
Comment les collègues vous considèrent-ils ? Est-ce que ça change quelque chose dans votre relation ?
J'en sais rien, c'est à eux qu'il faudrait le demander. Par contre, je peux dire qu'ils ont été particulièrement sympas parce que mon dernier bouquin, j'ai eu je ne sais pas combien de collègues qui me l'ont acheté, un nombre incalculable, quoi.
Alors, j'ai regardé un petit peu sur Internet, on trouve dans des sites des prix très différents de vos œuvres, alors qu'au départ, c'est un livre qui est vendu relativement peu cher.
Disons que La Voix du Nord, surtout, par exemple, fait dans sa réédition de 8 ouvrages de Ravenceau un prix promotionnel. Donc c'est intéressant pour les gens de l'acheter. C'est comme ça qu'il se vend bien. Après, bon, je sais rien. Peut-être que maintenant, certains anciens peuvent être... je sais pas, j'avoue que je m'intéresse pas trop.
J'ai vu des prix au moins parfois double, alors qu'ils sont pas neufs.
J'en sais rien. J'avoue que je regarde pas ça du tout.
C'est assez étonnant. Donc, est-ce que vous considérez que vous inscrivez ce que vous écrivez pour compléter, on va dire, une culture régionale, une ambiance régionale, ou pour compléter une lignée d'écrivains ?
Contribuer à une ambiance régionale, certainement, à côté de 50 autres types d'ouvrages, je pense, mais... je l'ai inscrit dans le Nord. Bon, j'aime bien la Bretagne. Je pourrais très bien en écrire un qui se passera en Bretagne, mais c'est pas une nécessité absolue. Quant à la lignée d'écrivains, ou je sais pas, c'est surtout personnel, je pense.
La région se développe et aussi cherche des stratégies d'identification en termes d'image, etc. Qu'est-ce que vous pensez apporter en termes justement de reconnaissance de notre région ?
Moi, personnellement, c'est qu'une toute petite pierre, mais disons qu'à Pollard-en-Or, ça c'est vrai que c'est quand même la grosse collection de romans policiers du Nord maintenant. Il y en a d'autres, mais c'est quand même un éditeur, je tiens à le dire, qui a donné sa chance à beaucoup de monde. Et puis, le livre est bien implanté. Il y a des publicités dans La Voix du Nord actuellement. Il est bien référencé partout. On est pratiquement au 100e ouvrage. Tous les lieux de la région sont concernés. Il y a quand même là véritablement eu quelque chose qui n'existait pas avant, qui existe maintenant et qui est pas négligeable.
Et pour quelqu'un qui le lit, je suppose qu'il y a beaucoup de lecteurs qui ne sont pas de la région. Est-ce que ça peut redonner une image dynamique de cette région ?
Moi, j'ai dédicacé l'an dernier en Bretagne et j'en ai vendu plein parce que des gens étaient là en disant « Tiens, c'est curieux, ça me donnera envie d'aller à Lille, où j'y suis allé, ça me donne envie de le retourner, le retrouver. » Donc ça doit marcher.
Voilà, donc vous vous attelez au prochain.
Il est fini, il va sortir, il était prévu théoriquement pour début 2012, mais je pense qu'il sera peut-être avancé en septembre de cette année.
Le titre ?
Le titre, c'est une exclusivité de l'éditeur, donc en général, je ne sais pas encore ce qu'il décidera, mais bon, je ne sais pas.
Le thème ?
Le thème, je vous le dis, c'est 20 ans après, des anciens de Federbe qui se retrouvent et il y a un meurtre dans leur groupe.
Voilà, merci Emmanuel Cisse donc pour la suite de ces aventures.
Et merci de m'avoir reçu.
Je vous en prie.